8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur les habitants de Harlem, ce quartier de New York emblématique de la culture noire américaine, des luttes pour les droits civiques, un quartier qui a beaucoup changé en quelques décennies.
Hi, my name is Beryl Buns.
Bonjour, je m'appelle Beryl Buns, j'ai vécu à Harlem toute ma vie et j'ai 75 ans. Je n'ai jamais vécu ailleurs qu'à Harlem.
Est-ce que vous pourriez nous dire comment le quartier a changé ?
Ça a changé plus ou moins. Nous avons un peu subi la gentrification. Les Blancs arrivent de plus en plus vite et nous poussent dehors. On va bien devoir aller autre part. Harlem va peut-être perdre son charme, même si je pense que Harlem restera Harlem. Nous, les Noirs, on restera à Harlem pour le restant de nos jours.
Harlem, ancien ghetto noir à 90% dans les années 80, c'est devenu un quartier aujourd'hui hybride où ne subsiste que la moitié de ses habitants afro-américains. Alors pourquoi et comment s'est mis en place un remplacement social et racial ? Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène finalement naturel au gré du marché de l'immobilier comme dans tant d'autres villes du monde où les notables chassent les plus pauvres sans vraiment le préméditer ? Harlem, désormais visité par les touristes du monde entier, se transforme, se dilue ou perd carrément sa mémoire. Nous allons en discuter avec notre invité. Bonjour Charlotte Coquillon.
Bonjour.
Vous êtes géographe, docteur en géopolitique, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste des États-Unis, et vous publiez Harlem, une histoire de la gentrification aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. On entendra aussi un autre témoignage d'une habitante de Harlem, également signée Loubna Anaki, notre correspondante à New York pour RFI. Et puis vous nous direz, Charlotte Coquillon, à quelques mois de l'élection présidentielle, si Joe Biden, dans le fond, a répondu aux attentes des minorités afro-américaines alors qu'il a été élu, porté notamment par le mouvement Black Lives Matter et ce désir de lutte contre les violences policières, de plus de justice sociale. Nous regarderons aussi d'autres phénomènes de remplacement urbain dans le monde, comme en Afrique du Sud, notamment dans la ville du Cap. Et puis en fin d'émission, le sport raconté aux enfants avec la série « Mon premier stade » de Juliette Brault à retrouver également en podcast.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Aujourd'hui, on dit quoi ? On se pose des questions sur le devenir de ce quartier noir américain Harlem. Charlotte Coquillon, une géographe qui s'intéresse comme vous à Harlem, ça veut dire qu'on regarde New York avec vous d'en haut d'abord, à plat sur une carte. Est-ce qu'on peut refaire un peu le point ? Rappelez-nous les quartiers et qui habite où ?
Alors, Harlem, c'est un des quartiers noirs les plus importants de la ville de New York, mais aussi des États-Unis, sur le plan symbolique, sur le plan aussi du nombre, de la concentration. Harlem s'est situé à Manhattan, sur la presqu'île de Manhattan. Et souvent, on pense que parce que ça a été un ghetto, ça a été un quartier qui était peut-être moins central et périphérique de la ville, mais pas du tout. C'est un quartier qui est au cœur de l'île de Manhattan, juste qui borde Central Park. Donc, qui a beaucoup de valeurs, notamment immobilières, ce qui explique les transformations qu'il connaît aujourd'hui. Mais voilà, Harlem, c'est un quartier qui aussi héberge l'Université de Columbia, qui est une des institutions principales des élites dans le monde, des élites blanches, du coup, au cœur de ce quartier noir. C'est aussi une partie du quartier qui est habitée par des Hispaniques, El Barrio, qui est situé à l'est du quartier. Voilà, c'est un quartier multi-ethnique dans ses parties, mais dans ses différentes sous-quartiers, on va dire, mais qui, au niveau de Central Harlem, a été le grand quartier noir politiquement, symboliquement, culturellement, artistiquement.
C'est ça, vous parlez même de tout le 20e siècle. Capitale culturelle noire américaine.
Absolument, on dit que c'était la Mecque noire, la capitale des villes noires aux États-Unis. parce que pendant longtemps...
Dans les années 50-60, notamment.
Même plutôt dans le XXe siècle, avec la Harlem Renaissance, où il y avait beaucoup de philosophes, d'artistes, d'intellectuels, d'auteurs, de poètes, de psychiatres, toute une intelligentsia africaine-américaine très connue, aussi des mouvements politiques, le panafricanisme, W.E.B. Du Bois, qui a créé ensuite la... NAACP, une grande organisation des droits civiques, tout ça, c'est
les
né
discours
à Harlem.
De Martin Luther King, les discours de Martin Luther King,
de Malcolm X, de Marcus Garvey, donc un petit peu
de Louis Farrakhan,
exactement. La nation de l'islam avait ses quartiers généraux à Harlem. Les Black Panthers avaient des bureaux et une section à Harlem. Donc c'est vraiment un quartier très important dans la communauté noire, au-delà des frontières de la ville.
Les Noirs seront-ils capables de se maintenir à Harlem? Cette question, en fait, elle était déjà posée en 1925 par l'écrivain et militant des droits humains américain James Weldon Johnson. Pourquoi pose-t-il cette question en 1925 déjà?
Parce que déjà, la question de la ségrégation se pose, et la question de la récupération et de l'accaparement des ressources des Noirs est une question centrale et permanente de l'histoire américaine. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir les processus de gentrification avec ce remplacement de la population noire, notamment par une population blanche, même si à Harlem, il y a eu d'autres étapes, on en parlera sans doute. Mais le remplacement de cette population et la réappropriation de ces quartiers-là aujourd'hui, on peut l'inscrire vraiment comme une dimension moderne, contemporaine, de processus d'exclusion antérieure avec les lois de ségrégation et même l'esclavage. Et l'appropriation de tout ce que les Noirs avaient aux États-Unis.
Quand on parle de gentrification, il faut juste rappeler que ça vient du mot anglais gentry. Hein. Gentry, c'était les notables qui remplaçaient les classes ouvrières dans certains quartiers de villes en Angleterre, notamment bien sûr de Londres, hein, et qui transformaient des petites maisons modestes en demeures élégantes. Hein.
C'est ça, c'est la récupération de quartiers ouvriers, de demeures ouvrières. Et à Harlem, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire que des maisons qu'on appelle des brownstones, qui avaient été à l'époque de la ghettoisation du quartier, qui avait été divisé, occupé par plusieurs familles, loué à la pièce. Il y avait des gens à un moment donné qui louaient une chambre, parfois même qui louaient à l'heure.
Des immeubles qui étaient surpeuplés à une certaine époque.
Surpopulation qui avait conduit d'ailleurs en partie à la dégradation du capital architectural, du patrimoine architectural. Mais aujourd'hui, ces maisons, elles sont rachetées par des ménages blancs, par des familles qui veulent avoir un enfant et qui retransforment ça en maison familiale unique, avec éventuellement l'étage supérieur loué à une autre famille, mais ça n'est plus du tout occupé par des multiples générations ou par de multiples familles comme ça l'était au cours du XXe siècle. Voilà.
Et ces familles blanches sont les mêmes qui parlent pudiquement aujourd'hui à Harlem de régénération, hein, finalement, comme s'il fallait oxygéner le quartier avec de la mixité raciale, sociale, alors que la gentrification, qui veut dire la même chose un peu, le remplacement, mais a une connotation beaucoup plus politique.
C'est moins les familles que les pouvoirs publics, justement, qui insiste sur ce vocabulaire-là et qui, comme vous le dites, comme vous le rappelez, parle de renaissance, de régénération, de rénovation, plutôt que de dire gentrification, qui contient dans sa définition même la dimension de lutte des classes, de conflit, et donc la dimension
Et d'éloignement forcé.
D'éloignement forcé et la dimension politique de choisir à qui on accorde le droit de vivre dans ces quartiers-là.
8 milliards de voisins, qui peut rester indifférent dans le fond à Harlem? C'est un quartier qui, selon les époques, indigne, fascine, inquiète aussi. Hein. Harlem, c'est pas le Bronx, mais Harlem a toujours inspiré la chanson. On écoute le groupe Feu Chatterton chez 8 milliards.
On se dirige ensuite vers Harlem. À 19h, l'office protestant commence dans un temple tout à fait moderne et particulièrement laid. La mer catique est partout, et les Américains s'avifèrent pour aller chez le chaland. Des enceintes devant l'église retransmettent la cérémonie. Le gospel bat son plein, et des hommes de paroisse nous remettent des fascicules sur le bien, le mal et Satan, avant que nous nous asseyions sur le banc des communiants. Il n'y a que des Noirs dans l'assemblée, hormis un groupe de touristes espagnols. Sur la scène, quatre choristes font des harmonies de spiritual derrière un pasteur amplifié qui harangue les fidèles. Le pasteur parle vite et je ne comprends pas tout. Au milieu des Amen, 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 il dit peut-être qu'aujourd'hui rien de ce que tu penses ne mérite le nom de fleur. Mais demain, demain, Demain tu t'éveilleras sans doute sous un arbre fruitier, comme jadis Jonas sous le ricin. Ils disent ce n'est pas le froid mais la honte qui a donné le manteau, qu'un quidam marchait droit mais qu'à cause de la mer il s'est assis, que tout était gros doux comme chez le traiteur chinois, et qu'il faut honorer le nom de son père. Je ne comprends pas tout. Je crois voir une déesse de muscles et de courbes quand il dit que les statues aussi verdissent et que leurs couronnes sont un perchoir pour les pigeons. Que jalouser l'éternité des statues, c'est envier la fiance sur leurs épaules et celle qui jonche leur piédestal. Alors je pense à la déesse nue et je vois léviter près de sa chevelure un moineau écarlate. Je vois la déesse nue et ses fesses qui avant dansaient. Puis la nuit tombe, dans le mobile on a traversé les âges. La fille est partie à Harlem, à Harlem c'était parce qu'il y a. Puis la nuit tombe, dans le mobile on a traversé les âges. La fille est partie à Harlem, à Harlem c'était parce qu'il y a. Times Square est autour. On a du mal à croire à une ferveur aussi démonstrative, qui ne ressemble pas d'ailleurs à cette ferveur contagieuse que je connais, celle des baisers véritables. Le spectacle ecclésiaste ne touche pas au cœur, il divertit. Et tout le monde chante, et tout le monde chante. Est-ce la clarté ou rien que de l'espace après un massacre, dit-il. A-t-on coupé, brûlé des arbres pour avoir cette clairière-là, comme une piscine dans le jardin d'un pavillon de banlieue? Ou bien sommes-nous tombés dessus, par hasard? Fausse piste, trouvaille, dilemme, tenaille, écrou, ciel, muraille, et des pensées que je réprouve. Un cheveu de l'avoir fait, dit-il. Enfer, paradis, un détail. Promenade de santé, bercaille, et de quoi déchanter toujours à un cheveu. Il parle à présent de rachat. À la fois, tout est à portée de moi. Alors je chante aussi. This morning when I woke up, Jesus was on my side. On my side. On my side.
Huit milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI avec notre invitée Charlotte Coquillon. Vous êtes géographe, vous publiez une histoire de la gentrification. Il s'agit de la gentrification de Harlem. Et je le rappelle, gentrification vient du mot anglais gentry, les notables qui remplaçaient les ouvriers dans des maisons modestes à Londres à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, plutôt 20e siècle d'ailleurs.
Oui, plutôt 20e siècle.
Pour habiter dans des quartiers qui étaient mieux situés. Et c'est un peu ce qui se passe depuis déjà plusieurs décennies à Harlem. Harlem change de visage, cela se voit à l'œil nu. Entre 2010 et 2020, le quartier a perdu 10 000 habitants noirs américains, alors que 18 000 blancs s'y sont installés. Et depuis les années 90, les loyers ont augmenté de 250%, avec désormais des magasins chics, des restaurants coûteux, certes pas partout non plus. Alors est-ce qu'il faut quitter Harlem? Une habitante raconte 25 ans d'évolution.
Bonjour, je m'appelle Victorine Blais et je suis de la Côte d'Ivoire et j'habite à Harlem depuis 1999, le 1er avril 1999, 27 ans dans le même appartement à la 123 là.
Comment vous avez vu le quartier changer au cours de ces années, de ces 27 ans?
Comme ils appellent eux-mêmes les Noirs américains, Harlem était vraiment un ghetto. Il y avait des buildings délabrés et je voyais des personnes sortir des fauteuils, s'asseoir des Noirs américains, comme si c'était vraiment en Afrique. Et je me souvenais de mes parents en Afrique, je dis, ben, dis donc. Et au fil du temps, Harlem a commencé à changer et il y a des Noirs américains qui ne voulaient pas que Harlem change parce qu'ils disent que Harlem, c'est leur histoire.
Vous pensez que c'est aussi un peu la gentrification quand les Blancs, on va dire plus riches, s'installent à Harlem?
Voilà, effectivement, bon. Ils aiment bien Harlem. Vraiment, il y a un changement. Il y a beaucoup de blancs. Tu ne pouvais pas voir Harlem à un blanc. Non, non, non. Parce qu'Harlem était dangereux. Mais maintenant, bon, les noirs sont partis. Les pauvres, en fait.
Est-ce qu'il y a des conséquences qui vous dérangent plus? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que votre loyer est plus cher, par exemple?
Oui, Harlem est devenu cher. Les appartements, maintenant, comment je venais? L'appartement que j'habite maintenant, 4 pièces. C'était à $525. ce mois de mars là, j'ai commencé à payer 1026 dollars après 27 ans. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir un appartement de 4 pièces à Harlem à ce prix. C'est triplé, 3000 et quelques. Vraiment, les appartements sont chers parce que, bon, c'est le développement.
Vous pensez que vous allez pouvoir rester à Harlem si ça change comme ça, si tout devient plus cher?
C'est pas possible.
Vous préférez rentrer en Côte d'Ivoire?
Oui, je préfère rentrer et vieillir en Côte d'Ivoire parce que c'est pas facile ici. Et mes enfants ne pourront pas s'occuper de moi. Pas qu'ils ne veulent pas, mais les moyens. Les moyens, c'est cher pour eux. Je ne veux pas être une charge. C'est moi qui les envoie ici pour avoir une vie meilleure. Alors je ne peux pas être une charge pour eux. Je vais retourner. Comme ça, je peux venir tous les 6 mois les rendre visite.
Est-ce qu'au cours des années, parce que le quartier a changé, parce que tout est devenu un peu plus cher, vous avez perdu des amis qui ont préféré déménager du quartier, aller vivre dans des quartiers un peu moins chers peut-être?
Si, j'ai une amie qui a perdu sa maison parce qu'elle ne travaillait plus et puis c'était devenu cher. Elle a perdu sa maison, elle est maintenant dans le Bronx. Et même le Bronx aussi, ça commence à devenir cher.
Charlotte Recoquillon, Victorine, qu'on vient d'entendre, n'est pas une africaine-américaine, hein, puisqu'elle est ivoirienne, mais elle n'est pas arrivée à Harlem non plus par hasard. Hein. Elle est arrivée à la fin des années 90, début des années 2000. On est un peu à un tournant où elle trouve un loyer pas très cher pour être pas très loin des emplois aussi.
Il est très intéressant ce témoignage. Il couvre énormément de sujets. Effectivement, elle fait partie de la vague d'immigration ouest-africaine qui a recréé une sous-section au sein de Harlem, Little Africa, qui est vers la 116e rue et la 125e rue. Dans les années 90, il y avait énormément de vendeurs de rue africains qui ont d'ailleurs été un symbole à un moment donné justement de la récupération du quartier parce que le maire Rudolph Giuliani avait envoyé la police pour déloger ces marchands de rue de manière très brutale et les a délocalisés dans un petit marché africain qui d'ailleurs aujourd'hui est un arrêt touristique où les gens viennent acheter. Et quand elle parle de son loyer et de l'évolution de son loyer, elle vit probablement dans un appartement qui appartient à un dispositif de loyer contrôlé ou stabilisé. Et en fait, ces dispositifs publics de protection des loyers ont été attaqués régulièrement par l'État de New York pour permettre aux propriétaires d'augmenter les loyers, par exemple, s'ils effectuaient des travaux et des rénovations pour augmenter, etc. Donc là, elle a encore un loyer qui finalement... Vu la localisation,
enfin, il a beaucoup augmenté son loyer quand même.
Il a doublé. Voilà. Il a doublé, mais il reste largement inférieur au marché privé non stabilisé et non encadré. C'est pour dire qu'il y a une crise du logement général à New York, vraiment très très grave.
Parce qu'on est dans la capitale économique des États-Unis, c'est là qu'il y a les emplois, qu'il y a les possibilités de carrière rapide, etc. Notamment.
Oui, et puis il y a une spéculation foncière très importante. Il y a des choix de politiques néolibérales qui ont été faits les uns après les autres, qui favorisent la spéculation privée et qui tirent tous les prix vers le haut. Et donc ça fait qu'il y a une demande aujourd'hui en logement sur des segments supérieurs avec des ménages qui ont la possibilité de payer des loyers plus élevés, qui est très importante et qui donc pousse et met la pression sur des ménages qui n'ont pas les moyens de s'aligner sur ces loyers-là. Et quand elle parle de ses enfants, c'est aussi un élément très important parce que justement, c'est à des moments de vie que souvent les transformations se font, soit parce qu'on part de chez ses parents et qu'en fait on ne peut pas se reloger dans le quartier à côté, ou on est parti faire ses études et quand on revient on ne peut pas, soit comme elle le dit, quand on...
Alors en tant qu'immigrante... Si on part à la retraite, elle,
voilà, et la retraite. Parce que la retraite, c'est un revenu fixe. Les gens n'ont pas de retraite qui augmente et ont souvent des retraites aussi assez modérées, modestes. Et donc ça, ce sont des moments où, quand elle parle de son ami qui a perdu son travail, enfin, tout ça sont des moments d'accélération brutale des changements dans le quartier.
Mais alors, dans ce que vous décrivez, on est dans un pays largement libéral, mais ça donne l'impression que finalement, on laisse faire le marché. Est-ce que les changements de population de Harlem, c'est uniquement une mécanique économique qui tourne sur elle-même sans contrôle politique, comme dans tant d'autres villes du monde?
Alors, même la mécanique économique n'est pas innée, naturelle, et résulte de choix, etc. Mais effectivement, de choix politiques, de choix aussi réglementaires. Les dispositions favorables aux entrepreneurs, enfin aux promoteurs immobiliers, par exemple, exemple, dans les années 80, la mairie a revendu pour un dollar symbolique des terrains vacants ou des immeubles abandonnés qu'elle avait préemptés et donc dont elle était propriétaire et qu'elle aurait pu elle-même réinvestir. Mmh. Mais elle a fait le choix économique de dire on délègue et on confie ce développement immobilier-là à des promoteurs en échange de quelques logements à loyer encadrés, mais le reste en leur permettant, au pays du capitalisme où la liberté individuelle de faire du profit est sacrée, on leur permet de faire du profit sur ces logements-là et ça a accéléré la, la gentrification. Mmh. Mais il y a eu une succession de politiques publiques sur le logement.
Préméditée,
organisée, concertée et cumulative. Donc on a par exemple eu le maire Koch dans les années 70, Edward Koch, qui a travaillé à la fois sur la question du logement et sur la question du marketing urbain. Il a commencé à faire des campagnes publicitaires, I love New York, etc. Donc il a commencé à mettre New York dans une dynamique de compétition internationale. Ensuite, il y a eu le maire Rudolf Giuliani qui a complété avec une dimension de sécurité, parce que même s'il y avait des logements, en fait, les gens ne voulaient pas venir à Harlem parce qu'ils croyaient que le quartier était dangereux. Votre témoignage le rappelait aussi. Et une fois que la sécurité a été traitée, et de manière brutale, hein, par des politiques répressives, de la police, de la répression, de l'éloignement des gens, ensuite, il y a eu une intervention du maire Michael Bloomberg, qui était surnommé le maire de la gentrification, et qui a, encore une fois, permis par des règles d'augmenter le nombre d'étages, d'attirer un certain nombre de chaînes et de commerces qui étaient des grandes chaînes internationales et non pas des petits commerces locaux, la bodega locale familiale qui faisait crédit aux clients, par exemple. Tous ces commerces-là ont disparu, fragilisés par l'arrivée de grandes enseignes internationales qu'on voit partout maintenant à travers le monde.
C'est ça. Donc finalement, une forme d'uniformisation qui rend la vie beaucoup plus difficile pour les personnes plus pauvres. On pourrait dire aussi, si on essayait de voir le côté positif, que ces politiques publiques, elles consistent finalement à crever une bulle de pauvreté, à crever le ghetto, pour ajouter plus de mixité à la fois raciale et sociale, parce qu'il s'agissait bien d'un ghetto autrefois. Et vous semblez dire que finalement, ça n'a pas eu un effet positif sur la culture de Harlem.
La question, c'est une question de justice, en fait. Au lieu d'avoir des politiques extrêmement volontaristes de réduction de la pauvreté, par exemple,
c'est-à-dire de maintenir les habitants noirs, mais qu'ils soient moins pauvres.
Voilà, on pourrait imaginer que s'il y a une politique sociale qui veut permettre aux gens d'avoir des loyers ou des logements décents, etc. Or, toutes les rénovations qui sont effectuées et qui sont demandées par les habitants ghettoisés eux-mêmes, hein, les rénovations bénéficient à des nouveaux habitants qui, une fois que le quartier est amélioré, rénové, agréable, sont forcés à partir. Et donc, c'est une question de justice de qui bénéficie de ces améliorations.
Mais néanmoins, il y a eu des initiatives qui ont montré qu'on pouvait briser la mécanique de la reproduction de la pauvreté à Harlem ou pas ?
Alors, non. Enfin,
notamment par l'éducation.
Il y a eu des initiatives, mais le grand paradoxe, c'est que chaque fois qu'on améliore un service, que ce soit le service public de l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit le logement, la création de parcs et d'espaces verts, toutes ces améliorations-là ne sont que des incitations supplémentaires à d'autres, pour d'autres ménages à venir dans le quartier, et des ménages plus aisés et souvent des ménages qui ne sont plus noirs. Et par exemple, si on pense aux églises, pareil, qui sont mentionnées dans votre témoignage et qui sont un emblème du quartier, les touristes de New York, même quand ils ne vont pas à Harlem, ils vont faire un tour à l'église noire de Harlem pour assister à un gospel. Eh bien, ces églises, aujourd'hui, elles ont un problème parce que leurs fidèles n'habitent plus dans le quartier et donc elles sont en déclin financier et elles ont du mal. Et elles vivent avec l'argent des touristes.
Et une vitrine artificielle.
Et c'est une vitrine artificielle.
Mais il y a eu une époque où les ghettoisations de villes noires, notamment comme Baltimore ou comme le quartier d'Harlem, on disait les personnes noires qui réussissent, parce qu'il y a des personnes noires qui deviennent avocats, qui deviennent médecins, qui deviennent chefs d'entreprise, cadres supérieurs, etc. Ces personnes, dès qu'elles le pouvaient, quitter le ghetto pour aller se diluer dans des quartiers plus chics, plus métissés, voire dans des quartiers blancs, si tant est qu'ils soient tolérés dans ces quartiers blancs jusqu'à une certaine limite et une certaine proportion. Hein, on l'a vu aussi sociologiquement dans les villes américaines. Mais alors finalement, est-ce qu'on peut dire que à Harlem, lorsque les élites noires sont parties, ça n'a pas contribué aussi à continuer à créer des modèles de réussite à l'intérieur de la communauté?
Alors, il y a plusieurs phases dans les ghettos américains, et notamment en Harlem. La première partie du XXe siècle, la ségrégation est appliquée partout, la ségrégation résidentielle. Les propriétaires ne louent pas à des familles blanches et des familles noires dans les mêmes immeubles. Donc, fatalement, dans le même quartier, ségrégués noirs vivent des personnes très pauvres et très modestes, mais aussi les élites, les bourgeois, les intellectuels, les médecins, les avocats, comme vous venez de le rappeler. Quand dans les années 60, les droits civiques permettent la déségrégation et donnent accès à d'autres logements, y compris à des logements plus décents, des logements des quartiers plus décents, avec des meilleurs services, des meilleures infrastructures, qui, jusqu'à cette époque-là, même quand on avait les moyens, étaient inaccessibles et fermés aux personnes noires. Donc là, ils partent en banlieue notamment et restent au centre de la ville les populations les plus pauvres, et c'est ce qu'on appelle l'hyper-ghettoisation. Ensuite, ce qu'on voit à Harlem, et c'est intéressant de voir l'intersection entre les logiques de classe et les logiques de race, d'identité raciale, c'est que à un moment donné, dans les années 80, la population noire qui était partie en banlieue ou leurs enfants s'aperçoit que finalement la vie là-bas n'est pas si merveilleuse, qu'il y a aussi de la ségrégation, que finalement c'est plus éloigné du centre-ville, et aussi pensent qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des habitants des quartiers noirs, de rôle modèle, de montrer l'exemple, de réinvestissement, et ils reviennent au centre-ville réinvestir dans Harlem. Sauf qu'on s'aperçoit très rapidement qu'ils ont les mêmes logiques de classe que la classe moyenne blanche.
Ils veulent, vont dans les mêmes restaurants.
Ils vont dans les mêmes restaurants.
Ils veulent de très bonnes écoles.
Ils veulent avoir des salons de thé. Ils veulent avoir des très bonnes écoles. Ils veulent avoir des rues pavées avec longées d'arbres. Ils veulent aller dans des bars le soir branchés et sur des terrasses.
Ce ne sont pas vraiment les urgences de la classe populaire noire de Harlem historique.
Exactement. Et donc, il y a une fracture entre la population noire ouvrière, modeste, employés, et les élites noires qui ne se mélangent pas forcément avec la classe moyenne blanche, parce que l'élite noire qui est revenue est sans doute plus fortunée que la classe moyenne blanche qui est arrivée après. Donc il n'y a pas forcément un mélange, mais il y a des logiques et des intérêts convergents en termes justement de choix publics et de politique publique.
Quand un ghetto se transforme pour plus de mixité, vous allez carrément jusqu'à dire que ça ne sert pas la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'une forme de dilution des minorités ne permet pas aux gens de ces minorités de faire entendre leur voix, de s'unir pour mieux se faire entendre ?
Alors, il y a cette raison. Effectivement, les gens ont été consultés, ils se sont mobilisés, ils ont exprimé leur désaccord, ils ont exprimé leur demande de dire, par exemple, qu'il fallait plus de logements à loyer abordable, qu'ils voulaient plus de programmes pour la communauté, qu'ils voulaient avoir accès à des programmes sociaux ou à l'université qui s'étendait dans leur quartier, etc. Et ils n'ont pas été entendus. On leur a concédé un certain nombre de petits programmes, mais qui n'ont pas changé structurellement les choses. Et la dimension démocratique, elle se pose aussi sur le fait que Harlem continue de faire sa notoriété sur l'histoire politique et la culture du quartier, mais que les gens même qui font et qui produisent cette culture et cette identité-là en sont évincés et en sont rejetés. Donc, par exemple, les nouveaux habitants, ils arrivent, ils aiment voir que dans le parc, il y a des musiciens qui jouent des percussions, ils aiment voir que sur le trottoir, il y a des gens qui jouent aux dames et qui jouent aux échecs, et des personnes âgés et des jeunes qui sont dans les escaliers, mais dès qu'ils deviennent leurs voisins, ils n'en veulent plus, ils appellent la police parce qu'ils considèrent que c'est des nuisances, la musique tard le soir, les gens qui les empêchent de rentrer chez eux en étant assis dans les escaliers. Donc ça, c'est typiquement des conflits d'usage qui sont toujours arbitrés en faveur des mêmes catégories sociales.
La gentrification de Harlem, vous restez avec nous, Charlotte Coquillon, c'est une question à la fois, on l'a dit depuis le début de l'émission, raciale et sociale, d'où sa spécificité. On va aller voir dans quelques instants en Afrique du Sud un autre contexte, une autre histoire, mais où la question raciale est aussi au cœur des déplacements des habitants.
RFI,
8 milliards de voisins.
Bonjour RFI.
J'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble. Et nous devons marcher ensemble.
Bonjour Claire Bargelès.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante en Afrique du Sud et vous nous parlez des transformations de la ville du Cap sur la côte Est qui attire des conférences internationales, des start-up, des touristes, ce qui ne profite pas d'ailleurs à tous les quartiers.
Oui, et c'est particulièrement vrai pour le quartier emblématique de Beau Cap. Vous avez peut-être en tête l'image de ces petites maisons aux façades très colorées. Ça va du jaune citron au rose acidulé en passant par les bleus azur. Il s'agit d'un des plus vieux quartiers de la ville, historiquement habité par les populations descendantes des esclaves venus de Malaisie et d'Indonésie pour servir de main-d'œuvre pour la colonie hollandaise à l'époque. Puis sous l'apartheid, chose très rare dans le centre-ville, la zone n'est pas passée entre les mains de la population blanche et les populations musulmanes descendantes de ces esclaves ont pu continuer d'y habiter. Mais désormais, le quartier est devenu de plus en plus branché, avec des adeptes des réseaux sociaux qui viennent tous s'y prendre en photo. Les Airbnb s'y sont multipliés, alors que le quartier est un passage obligé pour les touristes et le prix des maisons a rapidement augmenté. Et en conséquence, les habitants historiques craignent de perdre leur identité si particulière et de ne plus avoir les moyens de vivre à Beau Cap. Un phénomène similaire peut être observé à Woodstock, un quartier plus à l'est de la ville. Cafés végétariens, usines reconverties en marché et galeries d'art ont fleuri ces dernières années dans cette ancienne zone industrielle. Et tout cela côtoie aujourd'hui les vieilles boutiques et les maisons un peu plus modestes. Alors cela a permis de redynamiser le quartier, mais surtout de jour, car la nuit, tout se vide et il est considéré comme assez peu sûr de s'y balader. Mais ceux qui n'ont plus les moyens de vivre dans ces rues sont obligés de partir désormais.
Et forcément, le sujet est assez douloureux parce qu'il rappelle les traces encore fraîches du passé.
En effet, sous l'apartheid avec le Group Areas Act, c'est la loi sur les zones réservées, les populations noires, métisses, indiennes ont été déplacées de force loin des centres-villes pour être mises dans les townships, ces espaces bâtis spécifiquement pour garder une main-d'œuvre accessible, mais en dehors des villes. Au Cap, ces townships, ils ont été construits dans ce qu'on appelle les Cape Flats. C'est une vaste plaine poussiéreuse à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Et on voit encore le résultat de cette politique aujourd'hui, puisqu'on a des populations les plus pauvres qui sont toujours confinées dans ces zones. Et donc la gentrification du Cap continue de creuser ces inégalités et de perpétuer une certaine forme de ségrégation spatiale. La situation en plus est renforcée par le fait que les logements sociaux sont eux aussi construits dans ces mêmes townships, donc toujours à l'écart, alors que les transports publics sont encore mal développés, ce qui renforce bien sûr le sentiment d'exclusion. Il y a des associations au Cap comme par exemple Ndifuna ou Poisy qui se battent désormais pour réclamer des logements abordables dans les zones centrales de la ville.
Ouais, là où il y a des emplois et où donc on passe moins de temps dans les transports en commun. Et pour Johannesburg, Claire Bargelès, la plus grosse ville du pays, est-ce qu'on assiste au même phénomène de gentrification ?
Alors c'est intéressant, à Johannesburg le processus est assez différent contrairement à ce qu'on vient de voir au Cap. Le centre-ville résiste pour l'instant aux tentatives d'embourgeoisement. Là aussi, ce qu'on appelle le CBD, le Central Business District, était sous l'apartheid réservé aux populations blanches. Puis dans les années 80-90, avec l'assouplissement des règles, la zone a connu une forte arrivée de populations plus pauvres venues des régions rurales et des pays voisins. Et les entreprises et résidents plus aisés ont quitté ce CBD pour aller s'installer dans des banlieues sécurisées. Des gangs se sont alors emparés de bâtiments entiers, ils ont installé des marchands de sommeil et tous ces espaces se sont complètement dégradés sans que le gouvernement local ne parvienne à redresser la situation. Maintenant, la gentrification a plutôt lieu par îlot dans les banlieues qui se sont développées à l'extérieur du CBD. Et à l'intérieur, il y a bien eu quelques tentatives de rénovation afin d'attirer des populations nouvelles, notamment lorsque le pays a accueilli la Coupe du Monde de football en 2010, ou encore lors du développement du quartier de Mabonang, un quartier sorti de terre grâce à l'imagination d'un entrepreneur sud-africain, est devenu un temps le paradis des hipsters, si on peut dire. Mais jusqu'à présent, ces efforts de régénération urbaine n'ont pas abouti. Et même ce projet de Mabonang a pris du plomb dans l'aile puisqu'il y a eu une vente pour une bouchée de pain de tout ce projet immobilier. Donc on voit que de nouveaux modèles sont encore à réinventer. pour permettre au centre-ville de Johannesburg de revivre, tout en parvenant bien sûr à protéger les populations les moins aisées.
Oui, sans expulser personne si possible. Merci à vous Claire Bargelès, en direct de Johannesburg en Afrique du Sud. Charlotte Coquillon, vous êtes géographe, vous publiez Harlem, une histoire de la gentrification. Quelle est la limite de la comparaison entre l'Afrique du Sud et le quartier emblématique noir Harlem?
Alors, je ne saurais pas dire quelle est la limite, mais en tout cas, j'y vois des ressemblances parce que en écoutant ce reportage, je pensais à des quartiers, alors à East Harlem par exemple, qui concentrent énormément de logements sociaux et de grands ensembles parce qu'ils ont été placés là par les pouvoirs publics, hein, qui concentrent aussi des centres de désintoxication, des centres d'hébergement pour sans-abri, etc. La gentrification y est plus lente. Aussi, le métro était un petit peu plus éloigné, donc là, le prolongement de la ligne de métro favorise la gentrification. À Bedford-Stuyvesant, à Brooklyn, ou dans le South Bronx, donc un quartier du Bronx, dans le sud du Bronx, là aussi des quartiers noirs, la gentrification y est plus lente. Elle a notamment été interrompue à des moments quand il y a une crise immobilière ou le Covid, ou quand il y a un problème d'infrastructure plus important, par exemple, les déserts alimentaires, quand il faut construire énormément de supermarchés. C'était le cas à Harlem, ils en ont construit énormément. À Bedford-Stuyvesant, ça prend un peu plus de temps, mais finalement, on va quand même dans la même direction. Donc, je pense que c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps, mais la gentrification est quand même l'objectif espéré par les pouvoirs publics.
Espéré par les pouvoirs publics, mais dans un contexte quand même, à l'échelle de New York, de toute la ville de New York, dans un contexte qui est difficile en ce moment, où on dit que la ville vit une crise nationale, selon la municipalité, parce que les services sociaux qui sont sous-dimensionnés sont débordés par un afflux de migrants. Plus de 175 000 exilés sont passés par le système d'accueil de la ville depuis le printemps 2022. Alors, certes, ça fait que 2% des 8 millions et quelques de New-Yorkais, 8 millions et demi, mais c'est quand même pas mal. Où en est cette tradition d'asile de la capitale économique américaine? On venait là avec l'espoir de réussir, même si c'était très dur.
Alors oui, ça c'est vrai qu'il y a cette image de la réussite mais qui encore une fois est un mythe américain de très individuel en fait, de réussite individuelle, et qui est un modèle de réussite individuelle dans un contexte économique capitaliste. Aujourd'hui, la ville est dans une crise plus politique que sociale finalement, puisque en fait c'est une sorte de bras de fer avec les autres États, entre la ville de New York, l'État de New York, les autres États et l'État fédéral, sur qui prend en charge ces questions de migration, hein, notamment.
On parle également de sécurité, puisqu'on a l'armée sécurité dans le métro de New York quand même.
Et la police, surtout le maire de New York, qui est un ancien policier lui-même et qui est extrêmement pro-police, a déployé des dizaines de milliers de policiers supplémentaires et n'ont pas réglé de la question de la sécurité. D'ailleurs, il y a depuis le Covid une résurgence de problèmes sociaux, notamment d'addiction à la drogue, le retour de l'héroïne, du crack, etc. Mais du fait de choix justement politiques et de désinvestissement du secteur social, et où les gens se sont retrouvés dans des crises très très importantes.
À l'échelle nationale, est-ce que dans le fond Joe Biden a répondu aux attentes des minorités africaines-américaines? Que vont voter les minorités africaines-américaines lors de la prochaine élection en novembre prochain?
Alors, ils ont... Les Africains-américains ont... un positionnement différent selon leur génération. Les générations les plus anciennes sont plus loyales et plus fidèles à l'establishment démocrate, alors que les plus jeunes générations sont plus radicales et sont plus à la gauche de la gauche et plus socialistes, plus progressistes que l'establishment démocrate. Mais il y a une défiance et une colère immense contre Joe Biden. D'abord parce que en termes de la qualité de vie des Africains-Américains, ça ne s'est pas amélioré. Que sur la question des violences policières, qui est une question symbolique mais vraiment essentielle, on est dans la deuxième année consécutive de record du nombre de victimes, donc il n'a absolument pas réglé cette question-là. Et sa position au Proche-Orient et de soutien inconditionnel à Israël, qui aux États-Unis est vue comme une question de justice sociale, justice raciale intérieure, lui suscite une énorme colère de la part de la population noire.
Merci Charlotte Coquillon, géographe. Il faut lire cette histoire de Harlem. Harlem, une histoire de la gentrification. Vous avez publié aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Merci à vous.
Merci.
Dans quelques instants et en attendant Paris 2024, ce sera le sport raconté aux enfants avec le podcast de Juliette Brault, Mon Premier Stade. Ce sera juste après une sélection de la playlist RFI, Blinky Bill, chez 8 milliards de voisins. De voisins, mon premier stade maintenant cette année olympique, 8 milliards de voisins répond à toutes les questions que les enfants peuvent se poser sur le sport. Et dans cet épisode, Juliette Brault répond à Raphaël qui a une question sur le ping-pong.
RFI.
Mon premier stade. Mon premier stade. Le sport expliqué aux enfants.
Prénom Raphaël, âge 10 ans, taille 1m45. Je suis joueur de ping-pong à Abidjan en Côte d'Ivoire et j'aime le coup droit. Ma question est de savoir comment au ping-pong en est-on arrivé à utiliser des tables. Merci.
Raphaël, bienvenue dans mon premier stade. Tu fais donc partie des quelques 40 millions de joueurs qui pratiquent le tennis de table en club. Car oui, Raphaël, tennis de table est bien le nom officiel du ping-pong, celui utilisé pour les compétitions internationales et qui a fait son entrée aux Jeux Olympiques en 1988. Pour ceux qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement, pour jouer au tennis de table donc, il faut 2 ou 4 joueurs, des raquettes, une balle légère, un filet et donc une table. Alors, est-ce que ça veut dire que le ping-pong, c'est simplement du tennis qui est joué sur une table ? Ça serait un peu trop facile. Et il faudrait quand même une sacrée grande table. Revenons quelques années en arrière. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant le classement mondial, ce n'est pas vers la Chine qu'il faut se tourner. Non. Les origines du ping-pong nous amènent en réalité en Angleterre. Dans les années 1880. À cette époque, on joue déjà au tennis sur gazon. Quand je dis « on », je parle en réalité des classes fortunées. Et ces riches Anglais ne sont pas étrangers à la naissance du ping-pong. En effet, l'histoire la plus répandue sur la création du tennis de table est celle d'un dîner au cours duquel les convives issus de la bourgeoisie anglaise auraient voulu expliquer quelques règles du tennis. Comment ? Tout simplement en se servant de ce qu'ils avaient sous la main. Des boîtes de cigares pour les raquettes, un bouchon de champagne pour la balle, des livres en guise de filet, et donc une table pour le terrain. Voilà pour la légende. L'histoire a sans doute subi quelques transformations avec le temps, il existe d'ailleurs plusieurs versions. On ne trouve pas non plus la trace des personnes invitées à ce fameux dîner. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des années 1880, le ping-pong se popularise au sein de la bourgeoisie. On y joue pendant les longues soirées d'hiver. L'anglais David Foster voit bien l'engouement naissant pour le ping-pong. En 1890, il crée le premier kit de jeu comprenant raquettes, balles et filets. L'année suivante, le français Jacques Gossima fait de même. Car de l'autre côté de la Manche, en France, on joue aussi au tennis de table. Très vite, l'activité de loisir fait place à un vrai sport de compétition. On ne se contente plus de la table de salle à manger pour jouer, il faut une table dédiée au ping-pong. Et dès sa création, en 1926, la Fédération internationale fixe les critères de la table standard, celle qui pourra être utilisée en compétition. Attention Raphaël, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un peu technique. La table, pour être conforme, doit être rectangle, mesurer 2,74 m de longueur sur 1,525 m de largeur et être fixé à 76 cm du sol. La matière de la surface de jeu n'est pas précisée, en revanche, elle doit permettre un rebond d'environ 23 cm lorsqu'on laisse tomber la balle d'une hauteur de 30 cm au-dessus. Oui, c'est très précis, Raphaël. Le filet, quant à lui, doit séparer la table en deux parties égales. Logique. Avec tout ça, Raphaël, te voilà en présence d'une table de tennis de table officielle. Celle qu'on retrouvera cet été aux Jeux Olympiques de Paris. Car tu vois, près de 100 ans se sont écoulés depuis les premières lois du jeu. Les règles, la balle, les raquettes ont évolué, mais la table, elle, n'a pas changé, ou presque. Voilà, Raphaël! J'espère que tu en sais un peu plus sur le ping-pong. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver les autres épisodes de Mon Premier Stade sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner.
Mon Premier Stade.
On est dans la même équipe.
On est dans la même équipe.
Et on est tous dans la même équipe chez 8 milliards de voisins. Mon Premier Stade, n'oubliez pas, hein, vous abonner pour suivre tous les épisodes. Au micro, Juliette Brault, à la réalisation, Romain Dubrac, pour vous faire vivre le sport et vous faire comprendre aussi des règles assez techniques de toutes ces disciplines et pour répondre aux questions des enfants. Demain, 8 milliards de voisins, on parle à éducation, comment les écoles d'ingénieurs se transforment pour répondre aux attentes des étudiants, aux défis du réchauffement climatique. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions au 33 7 64 45 51 40. Dans quelques instants, RFI Midi.